La science CQFD, Natacha Triou.
En ce lundi férié, on vous met le pied à l'étrier et on part à la conquête d'un grand herbivore, le cheval. Où a-t-il été domestiqué pour la première fois, quand et comment ? L'un de nos invités, Ludovic Orlando, le cheval est le premier instrument de globalisation du monde. Apparu il y a 4 millions d'années sur le continent nord-américain, il a été un acteur majeur pour nos civilisations. Pourtant, reconstruire l'histoire de sa domestication a été difficile et certaines questions restent en suspens. Comment les variations génétiques des génomes des chevaux peuvent-elles nous aider à faire ce voyage dans le temps ? C'est au galop que l'on revient sur les origines des chevaux domestiques. Domestication, miser sur le bon cheval. Ludovic Orlando, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS et vous dirigez le Centre d'anthropobiologie et de génomique de l'Université de Toulouse. Valérie Chancigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement et l'autrice de l'ouvrage « Histoire de la domestication animale » aux éditions Delachaux. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation directe de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources d'articles et d'entretiens. C'est dès maintenant à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de nos amis les équidés, de où est situé le berceau de leur domestication, de l'importance de la paléogénomique pour reconstituer cette histoire, ainsi que celle des sciences indigènes. Mais pour commencer, pourquoi la domestication du cheval ? La question est posée en 1985, c'est notre archive du jour.
Alors pourquoi l'avait-on domestiqué, ce cheval ? Eh bien, c'est bien triste à dire. Il semble bien que les premiers chevaux domestiqués l'aient été pour leur viande.
Ah.
On a un indice, hélas. Le tas d'os qu'on a trouvé en bas de la falaise Solutré, chez nous en France, hélas.
Oui.
Un tas énorme qui ne s'était pas fait tout seul. On a fini par comprendre que nos aïeux faisaient fuir les hordes jusqu'à cette falaise, d'où affolés, elles se jetaient dans le vide. Ensuite, on les mangeait. Et un autre indice existe, postérieur. Dans les squelettes de chevaux sauvages trouvés à Debreika, les vertèbres et le sternum étaient là. Ce sont les seuls os qui n'ont que peu ou pas de chair sur eux. Donc, il s'agissait de chevaux sauvages qu'on mangeait alors qu'on élevait les domestiques. Enfin, qui étaient ces chevaux à l'époque de leur domestication ? Là, on interroge les dessins sur les objets d'art. Un vase, dit vase de Clémic, donc un vase datant des Scythes, ou de merveilleux dessins, comparables en plus beau à ceux des BD d'aujourd'hui, raconte le dressage du cheval. On y voit des selles, on y découvre que les chevaux portant un archer avaient leur crinière rasée, ça aurait gêné le tir à l'arc.
Voilà notre archive de 1985. Ludovic Orlando, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Ouais, ben c'est assez typique de ce qui s'est toujours dit sur l'origine du cheval domestique. Et vous voyez, entre le Solutréen, qui date d'il y a 23 000 à 18 000 ans de cela, et bien, et les Scythes, qui datent d'environ d'il y a 2500 ans de cela, il y a quand même une tranche de temps énorme qui s'est écoulée, dans laquelle s'est déroulée la domestication du cheval. Et en fait, ni l'argument qui est avancé ici pour les Solutréens ou pour les Scythes, n'est en fait la cause véritable de leur domestication originelle.
Valérie Chancigaud, pour vous aussi une réaction à cette archive.
Oui, c'est effectivement très daté par rapport à l'évolution des connaissances. On a maintenant, et grâce à la génomique notamment, une vision totalement différente et beaucoup plus précise de la domestication, et d'ailleurs pas que du cheval, d'autres phénomènes du même genre. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait associer comme ça des choses très différentes, comme ce qui pouvait se passer à la préhistoire avec des restes de massacres d'une espèce au pied d'une falaise, avec la domestication, alors que ces deux phénomènes totalement différents. La domestication, il faut bien préciser très rapidement qu'il s'agit d'une transformation génétique d'une population en quelque chose d'autre par la sélection. On garde certains individus qu'on va se faire reproduire ensemble, on élimine les autres, et peu à peu, génération après génération, on va en quelque sorte modifier les capacités de cette population d'animaux. C'est pas simplement qu'une prédation exercée sur l'espèce, c'est même pas la simple détention d'animaux sauvages, c'est bien une manipulation génétique, si on peut dire les choses de cette façon-là, qui est délibérée et qui vise en fait à transformer, même si le résultat final n'est pas anticipable par les peuples qui ont fait les premières domestications. Néanmoins, il y a une tendance qui pousse vers une certaine transformation de ces populations d'animaux.
Ludovic Orlando, je me retourne vers vous pour compléter cette définition de la domestication, parce qu'en effet, un domestiqué, c'est pas la même chose qu'apprivoiser.
Différent. Alors, évidemment, il y a une dimension qu'il ne faut jamais oublier dans les phénomènes domesticatoires en général, c'est que, outre la génétique et le contrôle de la reproduction de l'animal, eh bien, la relation est bijective, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire que les humains agissent sur l'animal, le modifiant, d'ailleurs volontairement ou involontairement, car vous pouvez avoir, par vos manipulations, cherché à obtenir une nouvelle caractéristique de l'animal, mais il se trouve aussi que selon comment vous croisez les animaux, vous pouvez les rendre plus proches les uns des autres, plus consanguins les uns avec les autres, alors que la consanguinité n'est pas forcément quelque chose que vous chercheriez a priori, puisque généralement elle est associée à des déficiences génétiques ou des tares génétiques. Donc vous voyez, il y a une relation qui est d'abord des humains vers les animaux, mais il y a aussi une relation des animaux vers les humains, puisque ceux-ci leur rendent un certain nombre de services, qu'ils soient des services matériels, la fourniture de viande, en effet, la fourniture d'une énergie motrice, mais parfois aussi simplement des services qui seraient d'ordre plus social ou symbolique. Symbolique, par exemple, si un animal d'un nouveau type apparaît, eh bien, seuls celles et ceux qui auraient des richesses pourraient se permettre de se l'offrir. Et ainsi, vous voyez comment l'animal, cette fois, peut servir de signe extérieur, simplement symbolique, dans les sphères sociales.
Alors vous parlez des services différents, hein, Ludovic Orlando. Est-ce que on sait quelles sont les hypothèses sur là où les raisons de la domestication du cheval ? Est-ce que c'est celle de la viande chevaline, comme on l'entendait dans cet archive ?
Alors en effet, d'ailleurs on dit là la domestication du cheval, mais ce que nos travaux ont révélé en s'appuyant énormément sur des allers-retours entre l'archéologie et la génomique évolutive, vous savez, cette science qui vise à lire dans les variations de l'ADN les généalogies et les actes de sélection faits par les éleveurs du passé, eh bien nous avons pu montrer qu'il y avait des domestications du cheval. J'entends par là qu'il y en a eu au moins deux. Et donc pour la toute première, celle que les archéologues nous indiquait avoir eu lieu il y a 5500 ans de cela dans les steppes d'Asie centrale, plus précisément d'un pays qu'on appelle aujourd'hui le Kazakhstan, eh bien, il semble bien que la motivation ait été au moins double. D'une part, le cheval, en effet, fourniture de viande, on voit ça sur le registre archéologique, car il y a des centaines de milliers d'ossements et de dents de chevaux qui ont été retrouvés à proximité de villages sédentaires de ces humains qui vivait il y a 5500 ans de cela, mais aussi son lait était bu, ça on le sait par des inférences archéologiques géochimiques. On vise ici à regarder la chimie des restes alimentaires qui restent encore incrustés à la surface des céramiques, par exemple, et d'y retrouver des signatures absolument non ambiguës de la présence de lait de jument, par exemple. Donc voilà pour la première, mais il se trouve que nos travaux montrent qu'il y a une seconde domestication du cheval, qui, elle, d'ailleurs, sera celle qui aura le plus grand succès, jusqu'à faire émerger l'ensemble des chevaux domestiques qui existent sur Terre aujourd'hui, alors que je vous parle. Cette seconde domestication a eu lieu il y a 4200 ans de cela environ, à l'ouest du territoire que je viens de mentionner, plus exactement au nord des montagnes que l'on appelle le Caucase, donc dans les steppes occidentales, si vous voulez, de la Russie. Et cette fois, il semble bien que le cheval soit devenu l'instrument de la mobilité par excellence. Et si je peux me permettre d'avancer ça, c'est que à mesure que l'on voit ce cheval d'un nouveau type génétique, hein, donc vous voyez, pour reprendre la définition de Valérie, quelque chose qui a été façonné, sélectionné par la main de l'homme et dont la reproduction a été en effet contrôlée, eh bien on voit ce cheval d'un nouveau type se répandre depuis son berceau initial à travers l'Eurasie en à peine quelques siècles. Et on a du mal à imaginer que cette expansion aussi verticale vertigineuse et aussi rapide, ne soit pas motivé par ce nouveau véhicule, cette nouvelle force motrice que permettait d'obtenir le cheval.
On va revenir plus en détail sur les grands âges principaux de domestication connue, mais avant ça, Valérie Chansigo, on peut rappeler les conséquences principales de la domestication du cheval, l'importance, comment le cheval a transformé certaines sociétés.
Oui, il y a en fait dans les phénomènes de domestication, il y a toujours besoin de faire un aller-retour entre les aspects biologiques, mais ce n'est pas qu'une question de biologie, c'est aussi une question, je dirais, de société, de construction des sociétés humaines. Et c'est vrai que les sociétés possédant le cheval, à partir du moment où on l'utilise pour transporter des marchandises ou se transporter soi-même, c'est des sociétés qui vont avoir une sorte de dynamisme absolument incomparable par rapport aux autres, ce qui explique d'ailleurs l'appétit pour le cheval, d'une certaine façon, de sociétés qui vont l'adopter très rapidement, de façon souvent assez lointaine de son berceau originel. Cette imitation, d'ailleurs, va se retrouver bien plus tard, quand on aura réintroduit le cheval, quand les Européens auront réintroduit le cheval en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud également. Et ça, c'est des phénomènes tout à fait intéressants, parce qu'on voit que des sociétés humaines qui n'avaient, dans certains cas, pas d'exemple de domestication, sont capables d'adopter des animaux domestiques, alors même qu'il y a derrière toute une technicité à acquérir, parce que la détention d'un animal domestique que l'on va faire se reproduire exige effectivement une technicité propre, et ça veut dire que ce qui circule, c'est encore une fois pas que des individus biologiques, mais c'est aussi tous les aspects culturels qu'il y a derrière.
On reviendra là encore sur le détail, sur le paradoxe de l'Amérique, Ludovic Orlandé, sur justement cette question sur le cheval, à quel point il a été central dans la construction de nos mondes modernes.
Eh bien, il faut s'imaginer qu'il y a un monde d'avant le cheval et un monde d'après le cheval. Donc je disais, ce monde d'avant le cheval, pour aller vite, c'était il y a 4200 ans de ça et tous les millénaires qui ont précédé. Mais le monde d'après le cheval, c'est le monde jusqu'au soir de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le cheval était un instrument de guerre jusqu'à la mécanisation de la guerre. Hein. Et ce sont plus d'un million d'équidés qui sont morts, par exemple, sur les champs de guerre de la Première Guerre mondiale. Mais en fait, si vous réfléchissez vite à des grandes batailles de l'histoire, hein, dans l'histoire de France, pensez à Azincourt par exemple, ou si vous allez plus profondément dans le temps, si vous pensez à par exemple la victoire d'Alexandre le Grand il y a 2300 et quelques années de ça sur Darius III de Perse, eh bien peut-être que l'issue de la guerre n'aurait pas été la même sans la maestria qu'avait Alexandre le Grand à dominer le cheval. Donc instrument de la guerre, et la guerre c'est finalement ce qui a accompagné l'histoire des humains depuis très longtemps. Ensuite, le cheval, c'est aussi l'instrument de la mobilité par excellence, on l'a dit tout à l'heure, et en fait, il faut se rendre compte que le cheval sur son dos, ou une fois nous assis sur des chars, qu'ils soient de guerre ou simplement des chars comme des charrettes, si vous voulez, eh bien, au-delà de nous-mêmes, ce sont nos cultures qui se déplacent. Je veux dire par là nos langues, nos religions, notre manière de penser le monde, nos concepts, nos théories, mais au-delà de ça, nos instruments se déplacent avec nous, ainsi que nos maladies, en fait, nos germes. Si bien que le cheval, indirectement, est un instrument qui a complètement révolutionné par sa dynamique, son étendue géographique et la vitesse qu'il a amené, qui a complètement révolutionné la nature profonde des relations entre les peuples, et bien depuis 4200 ans de cela. Ça, on le voit très très bien dans nos travaux, et d'ailleurs je le raconte dans ce livre, La conquête du cheval, aux éditions Elie Jacob, c'est que lorsque ce second cheval d'un nouveau type est domestiqué il y a 4200 ans de cela, dans le siècle qui suit, la roue à rayons apparaît et le char de guerre apparaît avec elle, et si bien qu'on a cette alliance bioculturelle, si je peux dire, d'un cheval d'un nouveau type qui amène une énergie motrice et qui est couplée avec une innovation d'ordre purement culturel et technique, l'invention d'une roue à rayons, et cette alliance là crée une capacité à des cultures matérielles humaines et les humains qui les accompagnent, eh bien, de se déplacer comme jamais précédemment. Et il y a une culture en particulier à laquelle je pense, qui a un nom qui s'appelle la culture de Sintashta, qui existait dans les steppes d'Asie centrale il y a 4100 ans de cela jusqu'à 3800 ans de cela à peu près, eh bien, qui se déplace du jour au lendemain, si je puis dire, grâce au cheval et au char, sur des milliers de kilomètres. Et avec elle, elle amène les humains, bien entendu, et leur langue, qui n'est nulle autre qu'une langue proto-indo-iranienne, qui est la langue mère de très nombreuses langues encore parlées aujourd'hui à travers le monde.
Valérie Chansigo.
Oui, c'est sans doute que les auditrices et les auditeurs ont parfois du mal à se rendre compte des transformations. Mais on peut fixer une comparaison entre des peuples qui avaient des niveaux d'industrie relativement similaires, à savoir les Mayas ou les Aztèques, par rapport au peuple mongol. Un soldat aztèque, par exemple, quand il devait partir à la guerre, devait tout transporter sur lui. Son armement, ses provisions, etc., l'eau. Et s'il devait rapporter du butin, il devait aussi le porter lui-même. Les Mongols, eux, avaient à disposition effectivement le cheval, et les guerres mongoles au moment de Gengis Khan ont eu un impact absolument considérable, allant des portes du Japon à la Russie, et a profondément transformé les régions. Et on n'imagine pas cette expansion, cette force de frappe, s'il n'y avait pas eu le cheval derrière. Donc on voit bien ce mécanisme d'amplification, c'est-à-dire le cheval ne crée pas une situation nouvelle, mais il amplifie des tendances qui pouvaient se voir autrement et avant, à une échelle très largement supérieure. La même chose, en fait, de ce qui va arriver beaucoup plus tard avec les énergies fossiles.
Et certains proto-historiens font de l'âge du cheval une césure dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi la reconstitution de l'histoire de la domestication du cheval est-elle si difficile? Et pourquoi est-il crucial de faire un voyage génétique dans le temps pour reconstruire cette histoire? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h17 sur France Culture, nous mettons les pieds à l'étrier pour parler de la domestication du cheval avec Ludovic Orlando et Valérie Chansigo. Nous venons d'esquisser très rapidement l'histoire de la domestication de cet animal. Maintenant, entrons un peu plus dans le détail. Où est situé le berceau de cette domestication? Il y a eu un premier processus, vous l'avez évoqué à l'instant, Ludovic Orlando, un premier processus avorté. C'est ce que vous montrez en 2018 avec cette parution dans la revue Science.
Oui, en effet, donc on suivait à cette époque-là ce que pensait une majorité, non pas la totalité, mais une majorité des archéologues. Et les archéologues nous pointaient du doigt la culture de Botaï dans les steppes d'Asie centrale kazakh, il y a 5500 ans de cela, comme le foyer de tous les chevaux domestiques existants sur Terre. Donc cela voudrait dire, si c'était là l'endroit, que depuis le poney Shetland, en passant par le cheval pur sang ou le grand percheron, tous ces chevaux finalement prendraient racine à cet endroit-là du monde. Et d'ailleurs, c'est pour tester cette hypothèse qu'on s'est embarqué dans le séquençage du génome de ces chevaux. Donc par génome, j'entends ici la totalité de l'information génétique de ces animaux que l'on peut décrypter, lire si vous voulez, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années grâce à un essor d'une technologie qui a une puissance folle, qui est la technologie des séquenceurs dits à très très haut débit. Alors que l'ADN se préserve dans les dents et dans les ossements fossiles, les technologies dites d'ADN ancien couplées à ce type de séquenceurs sont capables de nous lire la totalité de l'information génétique des individus qui vivaient alors. Et c'est pas une petite somme d'informations que chacun des vestiges des chevaux héberge. Par exemple, il faut imaginer le génome d'un cheval comme une suite de lettres, les quatre lettres de l'ADN, C, A, G, T, comme une suite de lettres qui fait environ 2,6 milliards de lettres. Pour vous donner une comparaison, dans toute l'œuvre de Proust, il y a 10 millions de lettres. Donc vous voyez que chaque génome de chaque cheval du passé regorge de 250 fois l'œuvre de Proust en termes de lettres. Donc je vous fais toucher ici du doigt que ce message génétique, il est forcément éminemment riche en informations. Et parce qu'il est si riche, et puisque l'ADN se transmet le long des généalogies, eh bien, dès lors qu'on a l'ADN, on est capable de dire dans quel endroit de la généalogie historique on se situe. Et on peut même savoir quels étaient les chevaux les plus proches les uns des autres ou les plus éloignés. Donc, en faisant ce travail génétique-là, ce que l'on a observé, c'est quelque chose d'absolument inattendu. Alors même qu'on croyait séquencer le matériel génétique des chevaux alors que les humains l'auraient domestiqué pour la première fois, donc le père et la mère fondateurs de ce que sont les chevaux domestiques aujourd'hui, eh bien ces chevaux donc de Botaille, il y a 5500 ans de cela, se révélaient à nous comme les ancêtres directs du seul cheval que l'on pensait alors comme le dernier survivant sauvage sur Terre, à savoir le cheval de Przewalski. Et donc, ça voulait dire de fait que nos yeux, aujourd'hui, et le monde moderne, étaient somme toute très trompeurs, puisque lorsque vous voyez un cheval de Przewalski, qui est un cheval qui ne fait pas, dont il ne fait pas de doute qu'il pourrait être sauvage, eh bien, par son comportement, notamment, hein, il n'est pas souvent très, très, très friand de la proximité des humains. D'autre part, c'est un cheval qui peut résister dans son environnement natif à des attaques de prédateurs tels que le loup. Donc, vous voyez, il ne nous viendrait pas à l'idée de lui critiquer son statut sauvage. Et pourtant, grâce à l'ADN, on se rend compte que celui qu'on pensait cheval sauvage n'est qu'en fait le descendant du premier cheval domestique que les humains n'aient jamais domestiqué. Et donc là, c'était assez vertigineux pour nous, parce que ça voulait dire qu'il fallait repenser toutes les théories et tous les modèles de l'évolution de l'animal, puisqu'on apprenait à l'instant que celui qui était sauvage était en fait le fruit d'une expérience de domestication première qui avait somme toute avorté, puisque le cheval était retourné comme par marronnage à l'état sauvage. Mais de fait même, puisque cette évidence était vraie, ça voulait dire par ailleurs que tous les autres chevaux existants sur Terre, les chevaux que l'on appelle domestiques, il y en a 60 millions sur Terre aujourd'hui, quels qu'ils soient dans le monde, eh bien leur origine était inconnue. Et de là, de nous embarquer dans exactement la même étude qui remonte par la génomique, les généalogies dans le temps, eh bien pour essayer de trouver ce second foyer d'une domestication du cheval.
Moralité de cette étude, certes, des chevaux ont été domestiqués à Botaille, mais il y a environ 5 millions, cette lignée domestique est retournée comme à l'état sauvage, Valérie Chansigaud.
Oui, il faut revenir, parce que les mots, en particulier en français, peuvent être trompeurs, parce que le terme de sauvage peut désigner des réalités totalement différentes. On peut entendre par sauvage des espèces qui n'ont pas été modifiées génétiquement, délibérément ou pas, par l'être humain, mais ça peut désigner aussi, d'où l'emploi du mot de marronnage, le fait qu'une population domestiquée, c'est-à-dire encore une fois transformée par la sélection artificielle, le retour de ces individus à une façon de vivre, comment dire, sans lien direct avec l'être humain. Une sorte de, ils vont dans la nature, ils se reproduisent naturellement dans la nature. Ils deviennent sauvages, mais la nature de ces individus est différente de leurs ancêtres réellement sauvages, parce que entre les deux, il y a eu une transformation. Le marronnage désigne simplement cette capacité qu'ont presque la totalité des espèces domestiquées à pouvoir vivre dans la nature sans l'aide des êtres humains. Je dis presque parce qu'il y a une espèce qui est totalement incapable, c'est le ver à soie. Et certains spécialistes pensent d'ailleurs que c'est la plus parfaite espèce domestiquée, et en tout cas, le ver à soie est incapable de le faire. Mais la plupart des autres espèces domestiquées sont capables, effectivement, de former des populations marronnes et de vivre de façon spontanée dans la nature sans l'aide d'êtres humains.
Quand a donc eu lieu le second événement de domestication réussie? Ludovic Orlando, vous avez percé ce mystère dans une étude parue dans la revue Nature en 2021. La domestication de tous nos chevaux modernes a eu lieu à ce moment-là, il y a 4200 ans.
Oui, alors là, vous voyez, alors que pour la première étude, nous avions les archéologues qui pouvaient nous aider à nous pointer la culture Botaï comme finalement le candidat le plus vraisemblable au démarrage du processus, eh bien là, nous étions bien en peine de savoir où regarder. Tout à coup, c'était assez vertigineux, comme je le disais, puisque en fait, le territoire de toute l'Eurasie s'ouvrait à nous comme un champ des possibles, puisque des hypothèses avaient été émises alors que le cheval ait pu être domestiqué en Ibérie, en Espagne et au Portugal, mais d'autres archéologues avaient émis l'hypothèse qu'il ait pu être domestiqué en Anatolie, d'autres dans les steppes pontiques, d'autres enfin dans encore d'autres territoires, si bien que notre raisonnement a été de se dire, puisque l'on vient finalement d'être très surpris par nos propres résultats, hein, on s'attendait vraiment à ce que Botaï nous explique tout, et puisqu'on ne comprenait finalement plus grand-chose après notre étude, on s'est dit, ne refaisons pas la même erreur et essayons de regarder tout sous un angle nouveau. Donc l'angle nouveau, c'était de se dire finalement, l'Eurasie tout entière pourrait être un candidat de domestication du cheval. Et donc nous voilà à entreprendre une nouvelle étude qui cette fois n'allait pas se cantonner à un seul site archéologique, mais qui en fait allait investir l'ensemble des sites archéologiques pour lesquels nous aurions pu trouver des restes d'ossements et de dents de chevaux. Donc ça s'étend depuis la façade atlantique, hein, depuis la France et le Portugal et l'Angleterre également, jusqu'à la façade pacifique, j'entends par là la Sibérie orientale et la façade orientale de la Chine. Et on s'est mis à refaire ce travail de paléogénomique, de séquençage du patrimoine génétique total des chevaux dans le passé. On a évidemment braqué notre attention sur le 3e et le 4e millénaire avant notre ère, puisque l'étude de Botaï située il y a 5500 ans, donc au 4e millénaire avant notre ère, eh bien, nous indiquait que ça avait dû se passer après cette époque-là. Donc on a séquencé plusieurs centaines en fait de chevaux qui dataient d'il y a 2000 ans de cela à plus de 50 000 ans, avec un énorme focus sur entre 2000 ans de cela et 5500 ans de cela. Et la chance qu'on a eue, je dois dire, c'est que nos travaux ont permis de découvrir une carte de l'Eurasie qui, du point de vue du cheval, était très, très marquée régionalement. En somme, nous découvrions que le cheval d'un endroit, génétiquement, était différent du cheval d'un autre grand bassin géographique. Par exemple, celui d'Asie centrale était très différent de celui d'Anatolie, qui était lui-même très différent de celui de l'Europe orientale ou de l'Europe occidentale, et ainsi de suite. Si bien que si les types génétiques étaient réduits à des bassins géographiques très précis, eh bien, le jeu constituait simplement à se rendre compte de la localisation du type génétique qui a eu le succès qu'on connaît jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc ce type génétique que je vais vite appeler ici le cheval domestique moderne, eh bien on a vu son émergence génétique, si je puis dire, au nord du Caucase, dans les steppes occidentales de la Russie, il y a 4200 ans de cela. Et alors qu'il était à l'époque qu'un tout petit confetti, ce qu'il y a d'assez intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont trois cultures matérielles humaines qui lui sont associées, donc il ne semble pas, d'après la culture matérielle archéologique, que l'invention du cheval moderne domestique, ce soit l'apanage d'un seul peuple, en fait plusieurs peuples, au moins trois, ont mélangé leur savoir-faire et leurs intentions pour arriver à cette prouesse que de domestiquer ce nouveau cheval. Eh bien, alors qu'il était réduit à ce confetti-là du monde, en quelques siècles à peine, il occupait l'Eurasie tout entière et bientôt il allait pénétrer l'Afrique pour la première fois.
Oui, c'est-à-dire que dans l'essentiel de l'Eurasie, avant 4200 ans, les chevaux restaient là où ils étaient et à partir d'il y a 4200 ans, la main de l'être humain a donc changé la distribution naturelle des chevaux.
C'est exactement cela. Un cheval.
On a perdu. Nous avons perdu Ludovic Orlando en cours de route. Donc nous parlions à l'instant hein, de cette origine hein, dans la région de la basse vallée du Don et de la Volga au nord du Caucase, de ces trois peuples. Nous parlons également hein, de ces études de l'ADN ancien qui est donc centrale en paléogénomique. Mais ces études-là reposent aussi sur l'archéozoologie. C'est une discipline qui étudie les restes d'animaux en contexte archéologique, et c'est le sujet de notre reportage du jour avec Natacha Demoule. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, ces études sont permises par l'analyse préalable des ossements. Olivier Bignonlot est archéozoologue au CNRS. Il a notamment contribué à l'étude de 2021 sur l'origine de la domestication du cheval. En effet, les génomes de 273 chevaux ayant vécu entre 50 000 et 200 ans avant notre ère ont été séquencés. Or, il a sélectionné certains des restes utilisés. Alors, comment identifie-t-on des ossements de chevaux retrouvés lors de fouilles? Et comment peut-on savoir, grâce à ces restes, quels étaient les liens entre chevaux et humains avant même la domestication?
Alors, l'objet qu'on a sous les yeux, c'est une tête de cheval, alors dans son expression osseuse. Donc on a ici d'un côté un crâne, et puis ici toute la mandibule en fait. Donc voilà, donc ce crâne en fait il est composé de différents éléments, avec des éléments qui sont plus précieux et plus utilisés la plupart du temps avec la paléogénomique. En tout cas il réserve le plus d'informations. C'est l'os pétreux qui correspond au conduit auditif, donc qu'on voit ici. Et puis tous les éléments dentaires, lorsqu'ils sont bien conservés, sont aussi très informatifs parce qu'ils sont très minéralisés également et que c'est un très bon piège pour en tirer plein d'informations génétiques.
Et donc ce genre de partie osseuse, c'est celle que vous essayez de sélectionner, de transmettre pour des analyses ADN, c'est ça ?
Tout simplement, les os pétreux et les éléments dentaires étant les plus minéralisés, ils offrent le meilleur réservoir d'informations pour une exploitation dans le cadre des analyses paléogénomiques.
Est-ce que vous nous expliquez quel est votre rôle en tant qu'archéozoologue dans la sélection des pièces qui vont être analysées ?
Donc, c'est une forme de garantie qu'on ne se trompe pas d'animal. Ça peut paraître assez simple à dire comme ça, mais ça peut gagner beaucoup de temps lorsqu'on a des analyses à faire en série, puisque dans le cadre de cette publication, il y avait plusieurs centaines de spécimens, et donc ce sont des masses d'informations tout à fait considérables, et ça permet de sécuriser les informations qu'on fait entrer dans la chaîne de traitement.
Et donc pour ça, on est passé tout à l'heure devant une sorte de bibliothèque d'os, c'est ce genre de bibliothèque que vous utilisez ?
Tout à fait, on appelle ça communément une ostéothèque. C'est tout un ensemble de référentiels par taxon, qui parfois est complété par un deuxième référentiel par partie anatomique, et qui permet en fait de lire les formes et d'assurer une détermination. Généralement, c'est un outil usuel qu'emploient les archéozoologues.
Donc, concernant cette étude de 2021, quels avaient été les résultats ?
Alors, de mon point de vue, qui travaille sur les périodes un petit peu plus anciennes, et voilà, j'avais donné des éléments qui étaient du paléolithique supérieur. Et l'une des raisons pour cela, c'était d'avoir des idées, en fait, du pôle génétique avant domestication, bien avant la domestication, pour être assuré d'avoir des référentiels qui soient vraiment très antérieurs avant les modifications qu'entraînent forcément les processus de domestication.
Vous travaillez généralement sur des périodes antérieures à celles où les chevaux étaient domestiqués. Pendant ces périodes antérieures, comment est-ce qu'ils étaient utilisés et surtout, comment est-ce que vous déterminez ça à partir de restes qui ne doivent pas être très nombreux ?
Alors, on a beaucoup de données puisqu'on a une profondeur de temps qui est assez importante et un nombre de sites également important. Les interactions entre les sociétés humaines et les chevaux aux périodes paléolithiques se résument à un jeu entre prédateurs et gibiers. Ceci étant dit, on a des indices d'une éventuelle captation pour un apprivoisement, a priori, puisque quelques signes de stress, de captivité ont été, ci et là, portés à notre connaissance dans les enregistrements archéologiques, notamment, par exemple, des usures non alimentaires sur des incisives. On appelle ça des dents tiquées.
Donc, par exemple, quand on voit ce crâne qu'on a devant nous, qui est un crâne récent, est-ce qu'on voit les traces de la domestication directement dessus ?
Dans cet espace qui est sans dents, qu'on appelle la symphyse mandibulaire entre les incisives et les premières prémolaires, souvent sur cette partie osseuse, voire sur le début en fait, des premières, des prémolaires 2, on a une usure qui n'est pas de l'ordre de la prise alimentaire, de l'usure en fait sur les surfaces occlusales, mais qui est liée en fait à un mort qui va soit irriter, soit provoquer une usure dentaire.
Et est-ce qu'il y avait d'autres usages des restes des chevaux, par exemple les os ou le cuir, dont on peut retrouver des traces ?
Il faisait une consommation assez systématique des animaux qui étaient abattus. On en a de multiples traces, ça en laisse. Il y a des stries de découpe, de prélèvements de tendons, de prélèvements de peau à différents endroits du corps qui sont tout à fait régulières, systématiques, enregistrées. Ils avaient une économie totale jusqu'à l'utilisation de l'os comme combustible. Donc vraiment, on peut se dire que, notamment chez le cheval, de la moindre partie de crinière jusqu'à l'élément osseux, il aura été vraisemblablement exploité de façon quasi totale.
Merci Natacha Demoule pour ce reportage. Valérie Chansigaud, une réaction ?
Oui, on voit bien l'apport de la paléogénomique à travers cette très belle étude de Ludovic Orlando et vraiment qui bouleverse les choses parce que effectivement, du point de vue archéologique, certaines caractéristiques sur lesquelles porte la domestication ne laissent pas nécessairement de traces. C'est bien là le problème. C'est-à-dire on modifie notamment le comportement et le comportement ne se fossilise pas. Donc la génétique peut permettre d'avoir une vision plus fine de ces éléments, mais c'est vrai que d'un point de vue archéologique, ça se voit chez le cheval, mais aussi chez d'autres espèces animales. On a parfois du mal à interpréter les restes que l'on trouve, parce que outre la simple utilisation des dépouilles de tel ou tel animal, savoir quel lien, quelle relation on avait au moment où l'animal était vivant et les transformations éventuelles, surtout au début de la domestication, ça laisse pas forcément des traces très, très significatives, très, très marquées. Il faut pour cela beaucoup de temps.
Ludovic Orlando.
Oui, et bien, je suis ravi d'entendre cela, car c'est en effet tout le problème dans l'histoire du cheval. Pendant très longtemps, ont existé de très, très nombreuses hypothèses, pour la simple et bonne raison que des modifications biologiques du squelette ne laissaient pas du tout entendre que nécessairement le cheval avait été domestiqué. Vous savez, par exemple, si je pense à la vache, dont l'ancêtre sont les auroques, les auroques étaient des sortes de bœufs gigantesques, d'une certaine manière. Eh bien, un des premiers traits biologiques liés à la domestication de la vache, c'est une réduction de la taille. Eh bien, et donc, vous voyez, des archéologues pourraient retrouver des vestiges, les mesurer et ainsi dire quasiment à coup sûr que leurs animaux étaient domestiqués. Pour le cheval, on n'a pas cette chance-là, car les changements de taille associés à la domestication n'apparaissent que un bon millier d'années après sa seconde domestication. Au début de l'âge de fer, il y a environ 3000 ans de cela. Donc, pendant à peu près une dizaine de siècle, eh bien, la morpho-anatomie du cheval n'est pas si claire et pas non ambiguë quant à la nature des vestiges que l'on va analyser. Alors, on peut évidemment s'appuyer sur des caractères tels que retrouve-t-on systématiquement les chevaux associés, par exemple, à des tombes princières ou à des tombes d'élite dans la société pour bien vraiment montrer qu'il s'agit là d'un statut particulier que le cheval commençait à prendre. Mais vous voyez que toutes ces inférences-là ne sont pas par nature absolument démonstrative. Et en particulier, ce que la génétique nous a révélé, outre le foyer et la date de la domestication de nos chevaux domestiques modernes, donc il y a 4200 ans, je le disais, dans les steppes pontiques, au nord du Caucase, eh bien, elles nous ont révélé ce que les éleveurs de l'époque ont eu en tête comme sélection à faire sur l'animal pour mieux interagir avec lui. Nous avons pu trouver ainsi qu'il y avait deux endroits de l'ADN du cheval, l'un sur le chromosome 3, l'autre sur son chromosome 9, où se situent deux gènes, dont le premier est impliqué dans la robustesse du dos, si vous voulez, donc la capacité que les chevaux ont à développer une locomotion biologiquement qui viendrait sans douleur. Donc elle ne laisse pas de traces sur sur les vertèbres elles-mêmes, mais plutôt sur les nerfs qui, eux, ne fossilisent pas, eh bien, les gènes voient ça et nous ont donc dit que l'un des éléments importants de la sélection artificielle qui a été menée là-bas à l'époque, eh bien, c'était de faciliter une biologie qui allait bien avec la locomotion. Et l'autre, sur le chromosome 9, c'est un gène qui est très, très bien connu par les travaux des biologistes sur les rats et les souris. Et ce gène-là, dont le nom est ZFPM1, est impliqué dans le contrôle de l'anxiété et de la docilité des animaux. Autrement dit, les éleveurs de l'époque, par tâtonnement, par truchement de facilité à interagir avec certains animaux plutôt que d'autres, ils ont, malgré eux, lancé un travail de sélection vers un type de cheval qui était plus docile. Alors, plus docile vraisemblablement pour faciliter leur tâche, mais également pour faciliter l'interaction du cheval lui-même avec d'autres chevaux parce que leur mode d'élevage les faisait tendre à les parquer ensemble dans des enclos. Donc vous voyez comment la biologie ici, qui est microscopique, pas celle que les archéozoologues observent à l'œil nu, comme Olivier Bignon-Lot, mais plutôt microscopique, celle que l'on ne voit pas sans des instruments aussi sophistiqués que les séquenceurs, et bien ici se complémentent pour raconter une histoire ensemble.
Et les Shintashta ont fait ce travail de sélection, ce qui a donné au cheval une meilleure anatomie, un comportement plus docile. Mais dans cette histoire, seules deux espèces de la famille des équidés ont été domestiquées, le cheval sauvage et l'âne sauvage d'Afrique. Valérie Chansigo, pourquoi tous les animaux du genre équus ne sont pas domestiqués? Pourquoi seulement le cheval et l'âne?
Alors, il peut y avoir, bien sûr, des raisons biologiques, comportementales. Un animal qui, enfin, une espèce d'animal qui est trop méfiante à la base ou trop agressive va avoir du mal. D'ailleurs, c'est pour cela, on le voit avec le cheval, mais ça se voit chez toutes les espèces domestiquées. L'un des éléments que l'on sélectionne d'abord et avant tout, c'est certainement, c'était une intuition qu'a eu Darwin au 19e siècle, alors qu'il ne connaissait pas du tout la génétique, il n'aurait été incapable d'en expliquer le mécanisme, mais que certainement l'un des éléments premiers qui sont sélectionnés par les premiers éleveurs, c'est cette docilité. Si on a affaire à des individus, encore une fois, qui cherchent à fuir à tout moment ou qui cherchent à agresser leur éleveur, ça va être assez compliqué, la cohabitation. Et donc, il y a une sélection qui est faite là-dessus et qui va servir en fait par un effet en quelque sorte cascade, par l'apparition de d'autres modifications morphologiques, comportementales, physiologiques. Et donc ça, c'est vraiment un élément absolument essentiel.
Oui, quant aux zèbres, on a essayé mais on n'a jamais réussi. Alors que s'est-il passé depuis 4000 ans? Quelle est l'histoire du cheval des plaines américaines? On en parle après ce chant d'amour pour le cheval, un chant d'amour punk.
Cheval, tu cours comme un fou, tu cherches à nous servir, envers et contre tout. Ta crinière de feu éblouit nos combats. Cheval si courageux, je te nomme roi. Cavale contre l'ennemi, sans défense, sans armure. Tes sabots, ton allure, tout chez toi est pur. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. Cheval, cours, sauve, galope, hennie. Des millions de chevaux ensevelis, les tripes à l'air, les yeux arrachés. Des millions de chevaux ensevelis pendant les guerres, les yeux arrachés. Merci cheval, merci de te faire tuer. En notre nom, tu es le plus beau, je t'aime. Tu es le plus beau.
Ce 22h43, cheval de Sexy Sushi. On poursuit au galop cette histoire de la domestication du cheval en compagnie de nos deux invités, Ludovic Orlando, directeur de recherche CNRS, qui dirige le Centre d'anthropobiologie et de génomique de l'Université de Toulouse, et Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement. Nous venons de voir quand et où le cheval avait été domestiqué. Côté Amérique, le cheval a disparu des Amériques il y a 12 000 ans. Selon la version officielle, à partir du XVIe siècle, les conquistadors rapportent en quelque sorte le cheval aux Amériques. Les Amérindiens n'auraient pas eu de cheval au moment de la colonisation. Ils les auraient adoptés qu'en 1680. Ça, c'est l'histoire admise par le monde occidental jusqu'à vos travaux, Ludovic Orlando, paru le 31 mars dernier dans Science, vos travaux qui bouleversent cette histoire officielle.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ces travaux-là, ils bouleversent non seulement l'histoire officielle, mais ils sont bouleversants tout court, puisqu'ils donnent la parole quasiment pour la première fois, d'une manière co-participante au travail, à des peuples de tradition orale, des peuples natifs amérindiens, en particulier le peuple Sioux des Lakota. Et pourquoi eux en particulier? C'est bien que, tout simplement, leur tradition orale leur faisait penser, leur indiquait très, très, très certainement que ce modèle que vous venez de présenter était pas nécessairement réel, était surtout le fruit de l'histoire racontée par les vainqueurs, ceux qui ont gagné la colonisation et non pas ceux qui étaient là avant que les colons arrivent, à savoir la diversité des nations, des premières nations des Amériques. Et en fait, lorsque certains représentants du peuple Lakota me contactent, on est en 2018 là, ils me contactent pour essayer de voir comment les sciences traditionnelles telles que celles faites par les peuples des premières nations et les sciences de pointe de génomique et l'ensemble des sciences archéologiques d'ailleurs pourraient travailler ensemble afin de tester cette hypothèse, à savoir que le cheval a absolument disparu des Amériques il y a 12 000 ans pour y réapparaître avec les conquistadors et enfin passer à la main des peuples amérindiens à partir de la révolte des Pueblos en 1680. C'est une révolte qui a fait tomber le pouvoir colonial espagnol pendant une vingtaine d'années et qui a permis aux Pueblos de mettre la main littéralement sur des très nombreux volumes de chevaux et ainsi de les redistribuer selon la thèse officielle à l'ensemble des ancêtres des peuples des plaines qui deviendront par exemple l'Empire Comanche du 18e et du 19e siècle. Et bien donc dans ces travaux-là, ce que l'on a réussi à faire, c'est d'abord écouter la tradition indigène, les traditions indigènes pour essayer de les comprendre. Vous voyez, ça a l'air quelque chose d'assez trivial, mais ça l'est absolument pas. Il faut imaginer que l'on parle tous dans des langues, mais au-delà de la traduction elle-même dans des langues différentes, au-delà de la traduction elle-même, ce qu'il se joue ici, c'est aussi des concepts, des visions du monde très différentes. Valérie parlait tout à l'heure de faire bien attention à ce que veut dire le mot sauvage ou domestique. Eh bien, il faut savoir que dans la langue Lakota, il n'y a pas de mot pour dire sauvage, en fait, ni même de mot pour dire domestique. Il n'y a qu'un mot pour traduire l'état à la nature, si vous voulez. Donc, vous voyez, ce qui a l'air simple à forger ne l'est absolument pas, mais néanmoins, au bout de 4 années de travail ensemble, on est arrivé à séquencer pas mal de génomes de chevaux qui existaient dans les Amériques à partir des temps coloniaux. Et la grande surprise que l'on a eue, c'est que 3 d'entre eux sont datés au carbone 14. C'est une technique géochimique qui permet de mettre une date absolue sur des vestiges. Eh bien, on a pu montrer qu'ils existaient, ces chevaux, aux alentours de 1600 et non pas à 1680. Alors, vous pourriez penser, 1600, ça veut donc dire qu'ils étaient des chevaux de conquistadors, aux mains des conquistadors. Eh bien, pas absolument pas, car l'archéologie, et c'est là où ça complémente parfaitement la génomique, c'est que l'archéologie nous dit que c'était des chevaux trouvés en contexte indigène. On sait cela, par exemple, parce que l'archéologie nous dit que les chevaux étaient nourris au maïs, par exemple. Et le maïs est une plante indigène, absolument pas européenne. On a d'autres éléments pour nous laisser entendre qu'il s'agissait là de chevaux indiens. Donc, vous voyez comment ces travaux révolutionnent un petit peu la thèse historique classique, celle racontée par les vainqueurs de l'histoire, les colonisateurs, puisqu'il faut imaginer que les Indiens avaient déjà, aux alentours de 1600, accès au cheval et l'avaient donc maîtrisé au point d'en faire un nouvel instrument dans leur construction de société, dans leur rapport au monde et même dans leur rapport à leur mode de croyance. Là où la génomique n'a pas indiqué que le cheval existait avant les conquistadors aux Amériques, c'est qu'en analysant le génome de ces chevaux qui sont passés c'est au aux mains des Indiens les premiers, aux alentours de 1600, eh bien, on a pu montrer qu'ils étaient comme deux gouttes d'eau génétiquement et identiques quasiment à ceux qui existaient à ce moment-là de l'histoire en Espagne et au Portugal. Autrement dit, ces chevaux étaient bien des chevaux qui avaient été acquis par les Indiens du fait même colonial, mais simplement les Indiens avaient eu une agentivité, avaient possédé le cheval bien avant ce que l'on avait pensé, pour ensuite en faire l'instrument de leur propre peuple au pluriel, évidemment. Et là où nos travaux ont été assez saisissants, je crois, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à partir de 1600 jusqu'à aujourd'hui, le cheval est resté aux mains de certains peuples indiens, notamment encore les Lakota, mais je disais, pensez aux Comanches, aux Pawnees, aux Shoshonis, aux Pueblos eux-mêmes. Eh bien, nous avons séquencé le génome des chevaux jusqu'à aujourd'hui, depuis 1600 à aujourd'hui, et on s'est rendu compte qu'au fil de l'histoire, et ce depuis la fin, depuis le courant du 19e siècle, que la génétique des chevaux associée aux Indiens devient de plus en plus comme teintée d'une origine génétique britannique. Or, vous savez que les Britanniques ont été le second grand empire colonial en Amérique du Nord. Hein, ils ont fondé les États-Unis fédéraux d'Amérique. Eh bien, donc, on voit donc que dans la génétique du cheval, c'est toute la mémoire des grands pouvoirs coloniaux qui s'est inscrite. Et donc, ça montre comment la colonisation en elle-même n'est pas qu'une affaire qui touche uniquement les sphères humaines de manière tragique, en fait, hein, mais qui peut s'inscrire sur les sphères de ces animaux ou de la nature qui sont les plus proches de nous. Ici, le cheval, mais il y a fort à parier que des travaux symétriques sur d'autres espèces, hein, telles que le chien, pourraient nous raconter la même histoire de changement profond en lien avec la colonisation.
Mais ce que dit votre étude aussi, Ludovic Orlando, c'est la compréhension du passé trop souvent vue sous le prisme des sciences occidentales. On arrive à la fin de cette émission. Valérie Chansigaud, est-ce qu'on peut imaginer la manière dont le cheval aurait évolué s'il n'avait pas été domestiqué un jour ?
Non. on pourrait dire que selon toute probabilité, il aurait purement et simplement disparu, comme en Amérique du Nord, puisque, après tout, l'ancêtre sauvage initial, lui, a bel et bien disparu. Comme d'autres espèces aussi, il faut imaginer quand même que lorsque l'être humain sort d'Afrique, commence à coloniser avec succès, ça participe au génie de l'espèce humaine. La totalité des terres hébergées à l'exception du pôle sud. Il faut savoir que c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur les différents continents. Et ce qui se passe en Amérique explique la disparition du cheval qui existait à l'arrivée des populations des paléo-indiens. C'est la disparition d'une grande faune et une réduction assez drastique de la diversité biologique. Cette diminution de la biodiversité n'est pas due à l'époque moderne, même si elle change de nature et s'accélère à l'époque moderne, elle commence dès la préhistoire.
Ludovic Orlando.
Oui, alors sur ce dernier point, l'érosion de la biodiversité a vraiment commencé, en effet, hein, depuis l'aube des activités humaines sur cette planète, en effet. Et ce que nos travaux ont pu montrer en l'espèce sur le cheval, c'est que néanmoins, au cours des deux derniers siècles, hein, c'est pas long au regard de l'histoire, les deux derniers siècles, la diversité des génétiques des chevaux a perdu environ 16% de son volume, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui et en 1800, eh bien, la diversité génétique, elle s'est vraiment appauvrie. Et si on poursuivait cela à l'avenir, il y a fort à parier qu'il n'y ait plus de diversité génétique tout court, tout simplement parce que les humains, à partir des années 1800, ont commencé à fabriquer ce que l'on appelle des variétés agronomiques, c'est-à-dire ont commencé à reproduire des animaux qui se ressemblaient entre eux, les grands avec les grands, les petits avec les petits, les rapides avec les rapides, et ce faisant, ont créé ces variétés pour assouvir certaines utilités très particulière, vous voyez, et ce faisant, eh bien, si l'on ne reproduit plus tout le monde ensemble, eh bien, c'est forcément que des variations génétiques qui préexistaient n'ont plus trouvé d'utilité à nos yeux et ont été perdues à tout jamais. Donc, à l'avenir, on peut garder ça vraiment en tête et se rendre compte que nos activités, encore aujourd'hui, pas que seulement depuis la préhistoire, ont un impact retentissant sur la biodiversité qu'il va falloir savoir préserver.
Valérie Chansigaud, vous voulez faire le mot de la fin.
Oui, je juste pour repérer ce mouvement d'accélération dans l'appauvrissement génétique des espèces domestiques a étroitement lié à cette passion qui apparaît pour les races au XIXe siècle et qui touche pas simplement que les espèces domestiques, mais également qui donne l'émergence du racisme tel qu'on a pu le connaître plus tard.
Eh bien, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure sur cette histoire entrelacée entre l'espèce humaine et le cheval domestique. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
Pourquoi l'air s'allège-t-il quand on grimpe? Dès 1630, un certain Jean-Baptiste Baliani, savant génois grand ami de Galilée, aimait l'idée que la prétendue horreur que la nature aurait pour le vide résulte en réalité d'une mauvaise interprétation des phénomènes. Sans qu'on puisse s'en rendre compte de façon directe, la pesanteur de l'air, comme il l'appelle, exerce un certain poids sur chaque mètre carré de tout ce qui se trouve au sol. Elle force ainsi l'air à s'infiltrer par tous les orifices possibles et empêche par là même l'apparition d'un quelconque vide. Pareille conclusion n'allait pas de soi. Il a d'ailleurs fallu un long temps pour déjouer certains pièges argumentatifs, notamment pour comprendre que si nous ne percevons pas cette pesanteur de l'air, c'est parce que la pression interne de notre corps compense exactement cette pression qu'on appellera plus tard la pression atmosphérique. C'est grâce à une expérience de pensée subtile que Baliani arrive à sa conclusion. Dans une lettre adressée à Galilée datée du 24 octobre 1630, il écrit « Si nous vivions au fond de la mer et que notre constitution physique s'en soit accommodée, nous finirions par ne plus sentir le poids de l'eau. Or, vivant dans un milieu aérien, nous ressentons le poids d'une certaine quantité d'eau posée sur notre tête. » Fin de citation. Il poursuit en expliquant que dans l'air, nous ne pouvons pas ressentir la pesanteur de l'air. Et il conclut par ces mots. À mon avis, plus l'air est haut et plus il est léger. Un peu plus tard, en 1644, Evangelista Torricelli, l'assistant de Galilée, envisage lui aussi que la pression de l'air diminue avec l'altitude. Mais c'est Blaise Pascal, alors âgé de 24 ans, qui le premier fait en sorte de vérifier expérimentalement la justesse de cette hypothèse, grâce à l'ajustement heureux de considérations à la fois géographiques et familiales. Il sollicite en effet son beau-frère, Florin Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand. 1648, ce dernier fait l'ascension du Puy-de-Dôme en suivant les consignes de Blaise Pascal et en s'assurant le concours de notables de Clermont-Ferrand, afin qu'ils puissent témoigner de la vérité des résultats enregistrés. Ils ont emporté avec eux un tube de Torricelli, c'est-à-dire un baromètre au mercure, au sommet de la montagne à 1465 mètres d'altitude. Au cours de l'ascension, ils observent une diminution progressive de la hauteur de la colonne de mercure. La preuve est ainsi établie que la pression atmosphérique décroît avec l'altitude. Par la même occasion, l'altimètre était inventé. Grimper, c'est donc s'exposer à manquer d'air. Qu'on en juge, la pression atmosphérique est 3 fois plus faible au sommet de l'Everest qu'au niveau de la mer. Et à 100 km d'altitude, elle n'est plus qu'un milliardième de la pression au niveau du sol. C'est dire au passage à quel point les alpinistes sont des gens étranges. Accrochés à quelques parois, ils appellent vide le petit volume d'espace qu'ils surplombent, alors qu'un vide bien plus vaste et bien moins dense s'étend tranquillement au-dessus de leur tête. Leur vide, celui qui s'étend sous eux, n'est en somme que ce dans quoi ils pourraient par malheur chuter. Or ce vide-là ne manque pas d'air. Il en regorge même. Il est moins vide que celui qui s'étend au-dessus des grimpeurs, jusqu'aux plus hautes couches de l'atmosphère. Si l'on veut bien y songer, il y a là quelque chose d'émouvant pour nous tous. L'essentiel de l'atmosphère ne constitue qu'une très fine peau dont l'épaisseur représente moins d'un millième du diamètre de la Terre. Cela devrait nous inciter à davantage en prendre soin, d'autant que la mince couche de gaz dans laquelle nous respirons est physiquement impossible à remplacer. L'origine de la curieuse inversion qu'opèrent les alpinistes et nous avec eux en appelant vide les zones de l'espace qui sont les moins vides est facile à comprendre. Luttant à chaque instant contre la sévère loi de la gravité, ils font spontanément de cette force l'arbitre de l'orientation de l'espace qui les entoure. C'est en somme la direction de leur poids qui polarise l'espace dans lequel ils évoluent. Mais en vérité, ils ne sont pas dupes, puisqu'assez souvent, au lieu de dire « il y a du vide », ils disent « il y a du gaz ». C'est le signe qu'en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, ils ont tout compris.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.